Paul Quillez, pourquoi votre engagement pour le désarmement nucléaire ?
En quelques minutes, vous raconter mon parcours serait certainement difficile, puisque ça a commencé très tôt, étant dans une famille de militaires, avec un père qui a fait la guerre d'Indochine, une famille qui était en Afrique du Nord, donc j'étais sensibilisé à ces questions, mais sans aller vers le désarmement, bien entendu. Ensuite, je me suis retrouvé étant en service militaire en 1964 au centre opérationnel des armées, où j'ai eu à parler au général de Gaulle au moment de la transmission d'un ordre entre l'Élysée et Taverny sur la mise en œuvre de la force de frappe française, comme on disait à l'époque. Bon, ça ne m'a pas beaucoup motivé à l'époque non plus, parce que je ne suivais pas ces questions, mais ça m'a ensuite posé problème de savoir qu'un homme, un seul, président de la République, dans sa majesté, avait la capacité de déclencher l'apocalypse nucléaire. C'est comme ça que ça fonctionnait. Ça n'avait jamais fonctionné, bien entendu, en réalité, mais moi, j'étais chargé de passer le message d'entraînement pour voir si le système fonctionnait. Et depuis, je m'y suis intéressé dans d'autres conditions, bien entendu, en particulier quand je suis devenu ministre de la Défense en 85, à la suite de l'affaire du Rainbow Warrior. Donc, il a fallu que très rapidement, je me glisse dans l'habit d'un ministre de la Défense d'un pays qui avait l'armement nucléaire, qui en plus vivait à l'époque de la guerre froide, à l'époque de la course aux armements. Et j'ai découvert beaucoup de choses qui aujourd'hui me sont très utiles pour expliquer comment fonctionnent les mécaniques de la défense et du nucléaire. J'ai en particulier eu à combattre le projet américain, en parole évidemment, le projet américain de guerre des étoiles, l'initiative de défense stratégique. J'ai eu aussi à regarder de près comment fonctionnaient les services, le message passé par le lobby militaro-industriel, toujours très subtil, mais qui explique qu'on ne peut pas faire autrement, et la décision du président de la République, à laquelle j'ai évidemment pas été confronté, mais j'ai pu en discuter avec le principal intéressé, qui était François Mitterrand à l'époque. Puis il y a eu la période de la fin de la guerre froide avec le début du désarmement. J'ai vu François Mitterrand poser la question générale de savoir ce qu'était l'armement pré-stratégique, parce qu'à l'époque, ça a beaucoup changé depuis, même si on nous dit que c'est toujours la même chose à dissuasion. Il y avait l'armement océanique, dans les sous-marins nucléaires, c'était stratégique, ça tire très loin. L'armement tactique, c'était moins loin et c'était à terre. Et il y avait entre les deux le pré-stratégique. Le président de la République voulait savoir ce que c'était. Le général lui dit, mais voyez, c'est pour tirer moins loin, c'est un avertissement. Enfin, autant de choses bizarres, parce qu'avertissement, c'est signe qu'on s'en sert, alors que la dissuasion est censée pas s'en servir. Il dit, oh, moins loin, ça fait beaucoup de morts, disait le président. Oui, mais enfin, moins quand même que le stratégique. Et puis, il dit, mais où est-ce que c'est pour tirer où ? Il dit, entre les deux, quoi. Entre les deux, c'était Moscou, évidemment. En Tchécoslovaquie, ou l'Allemagne de l'Est. Il dit, mais vous êtes fous, vous savez que ce sont des Allemands, quand même. Donc, à la suite de ça, de cette rencontre, mais de cette époque-là, tout à fait étonnante, les composantes nucléaires françaises, qui étaient trois, sont devenues deux. On a supprimé le tactique. Et à l'époque, on m'expliquait qu'il fallait avoir la stricte suffisance. C'était 500 armes, 540 même. Maintenant, on est à 300, donc la suffisance a diminué. Le nombre de composantes qui devait être 3, c'est 2. Et à chaque fois, on nous explique que ça n'a pas bougé, que c'est toujours la même chose. Bref, à cette époque-là, j'ai commencé à voir que le nucléaire n'était pas exactement ce que je croyais, et que dans une période de changement géostratégique, avec la fin de la guerre froide, la fin de la course aux armements qui avait conduit le monde à passer de 3 armes en 1945 à 70 000 armes nucléaires en 1990, donc de quoi faire exploser plusieurs fois la planète, il faut se rendre compte de quoi on parle. J'ai commencé à me dire qu'il fallait, vers ce que j'ai appelé dans un article milieu des années 90, vers la désescalade nucléaire. Et c'est là que Jacques Chirac a eu la mauvaise idée de reprendre les essais nucléaires français en août 1995. Très mauvaise idée, puisque c'était juste le 50e anniversaire d'Hiroshima-Nagasaki. La France a été condamnée partout, puisque François Mitterrand avait fait un moratoire sur les essais en 1992. On avait signé le traité de non-prolifération, qui n'était pas encore ratifié par la France. Et j'ai réussi à obtenir, en décembre 1995, qu'il y ait un débat sur la dissuasion nucléaire à l'Assemblée nationale. C'est la dernière fois qu'on a parlé de dissuasion nucléaire dans l'hémicycle de l'Assemblée. On en parle dans les commissions, à l'Assemblée, au Sénat, mais jamais dans l'hémicycle. Et là, bon, ça, je dirais, ma conviction a monté en pression, et dans les années 2000, j'étais rapidement convaincu qu'il fallait prendre d'abord contact avec tous ceux qui se battaient contre l'armement nucléaire, armement dangereux, armement qui ne correspond pas à toutes les contre-vérités qu'on entend tous les jours sur l'assurance-vie, sur l'arme non dangereuse, sur le monde qui serait plus dangereux s'il n'y avait pas d'armement nucléaire, l'incapacité à faire disparaître ces armes. Tout un ensemble de contre-vérités, pour ne pas dire de mensonges, qui m'ont convaincu qu'il fallait se battre. Et je me suis battu en créant une association qui est IDN, Initiative pour le désarmement nucléaire, IDN, avec le général Norlin, Jean-Marie Collin, un certain nombre de spécialistes, avec un comité de parrainage très large qui comprend des tas de personnalités, dont Nicolas Hulot et bien d'autres encore. Et on se bat pour informer, on se bat pour dénoncer quand c'est nécessaire, on se bat aussi pour organiser, proposer et organiser le débat, un débat qui doit avoir lieu à tous les niveaux, qui doit avoir lieu dans les instances dirigeantes, un débat qui devrait avoir lieu de temps en temps au gouvernement et auprès du président de la République, qui reste bloqué sur un discours vieux de 50 ans, c'est-à-dire le même discours, à quelques détails près, que le général de Gaulle. Et on nous répète sans arrêt que ce monde est dangereux et donc il faut s'armer un peu plus. On nous explique qu'un monde sans armes nucléaires serait encore plus dangereux. Donc moi, j'ai, pour répondre à votre question initiale, sauté, si je puis dire, sur l'occasion de cette novation d'une Assemblée générale de l'ONU, le 23 décembre 2016, qui a décidé que serait mis en place un groupe de travail qui va fonctionner d'ici une dizaine de jours pour rédiger un traité d'interdiction de l'armement nucléaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer d'aboutir à l'Assemblée générale de l'ONU à un traité de même nature que celui qui interdit l'armement chimique ou l'armement biologique. Ça prendra du temps. La deuxième session est prévue fin juin. Ça prendra du temps, ça demandera beaucoup de discussions. Il faudra aller dans les détails pour savoir comment on interdit, quel calendrier, avec quels moyens on vérifie. Ça sera compliqué, mais on y arrivera. Et en tout cas, on y arrivera parce qu'il y a la volonté de plus d'une centaine d'États, 113 États qui ont voté pour et 35 qui ont voté contre, dont malheureusement la France, les États-Unis, la Russie. La Chine s'est abstenue. La Chine est un nucléaire. Les Pays-Bas, pays de l'OTAN et de l'Union européenne, n'a pas voté contre, comme la France. Donc il y a quelques chances que ce travail qui va être engagé bientôt à l'ONU permette, non pas dans un mois, non pas dans trois mois, non pas un désarmement unilatéral, non pas un désarmement brutal, mais une démarche vers l'illégitimité de l'armement nucléaire. Et ça, c'est pour moi, et pour ceux qui se battent avec moi, il y a de nombreux mouvements, dont le mouvement de la paix, qui se battent depuis longtemps dans ce sens, c'est une espérance forte. Mais j'insiste beaucoup, ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas sans frottement, sans discussion difficile. Et je crois que la France a tort de ne pas être présente. C'est pour ça que j'ai demandé aux principaux candidats à l'élection présidentielle, il y a 15 jours, par toute une série de questions, qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour que la France soit présente à ces négociations et qu'elle ne soit pas là de façon un peu honteuse à côté de l'histoire qui avance. Et je crois que ce traité d'interdiction de l'armement nucléaire, c'est un peu l'histoire qui avance, qui a failli avancer en 1986 quand Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev se sont retrouvés à Helsinki, à Reykjavik, non, c'était très honneur, à Reykjavik en Islande, pour un sommet qui avait comme objectif notamment de faire disparaître tout armement nucléaire d'ici l'an 2000, 14 ans plus tard. Ça n'a pas marché malheureusement parce que Ronald Reagan s'est montré trop exigeant. Il a voulu conserver l'idée du bouclier antimissile et Gorbatchev a refusé. Mais il y a eu véritablement la possibilité à un moment donné que le monde se débarrasse de l'armement nucléaire et on était encore dans une période de guerre froide. Alors aujourd'hui, même si le monde est dangereux, même si les tensions sont fortes, je crois qu'il ne faut pas rater cette occasion.
Aujourd'hui, vous présidez cette association Initiative pour le désarmement nucléaire et vous prenez aussi votre bâton de pèlerin pour aller sur le terrain défendre ces idées et sensibiliser les personnes qui ne sont pas, elles, candidates à la présidence de la République.
Oui, cette semaine, j'ai 4 réunions. J'en ai fait une lundi avec l'organisation Green Cross qui est justement présidée par Mikhail Gorbatchev, qui, comme des tas de responsables au niveau mondial, des centaines d'anciens ministres de la Défense, ministres des Affaires étrangères, présidents, généraux, qui disent qu'il faut aller vers le désarmement nucléaire. C'est une folie. C'est l'avenir de l'humanité, l'avenir de la planète qui sont en jeu. Si un jour il y avait un accident, s'il y avait un échange irresponsable, s'il y avait un piratage des réseaux de déclenchement de l'arme nucléaire. Donc j'étais lundi à cette réunion. Mardi, j'étais à une réunion de la Fondation Gabriel Péri. Aujourd'hui, je suis à Manosque. Demain, je serai à Gap. Et oui, c'est un bâton de pèlerin, mais c'est agréable parce que je rencontre des gens qui sont engagés et je rencontre des gens qui veulent savoir. Et je peux vous dire que d'expérience, parce que j'en ai fait des dizaines de réunions, à chaque fois, au bout d'une heure ou deux de discussion, il y a une écoute formidable et les gens sont convaincus. Alors, ce n'est pas des milliers de gens, mais si les journalistes que vous êtes, les médias relayent cette information, si le débat commence une bonne fois pour toutes à avoir lieu au Parlement. Hein, on dit souvent que la parole politique est décrédibilisée et les responsables politiques sont décrédibilisés. S'ils veulent changer leur image, ils pourraient aussi s'intéresser à des problèmes autrement plus importants et déterminants que les petits sujets qui irriguent la campagne présidentielle en ce moment et qui sont, je dois le dire pour moi qui ai une longue carrière politique derrière moi, qui sont assez navrants.